Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque lundi. On va encore se régaler, hein. On va vous donner plein de bonheur et plein de plaisir dans cette émission du 24 février. On va parler hockey sur glace en grosse partie. On aura aussi un petit peu un point sur la vie sportive également hors hockey sur glace à Meudon. Meudon, ville des Hauts-de-Seine, hein, ville très sportive. On le verra au cours de cette émission. On aura naturellement le point foot avec notre ami Stéphane Desenclos. Et puis le journal des sports d'Alexandre tout à l'heure. Alors je vais saluer mes invités. Je vais d'abord commencer par le président de cette section hockey sur glace de Meudon, Dominique Hervé. Présent. Bonsoir Dominique.
Bonsoir à tous.
Merci d'être venu. C'est votre première radio, je crois, c'est ça ?
C'est notre première radio.
Ah ben voilà. C'est très bien. Donc, je l'ai dit, comme être d'une ville très, très, très sportive. Hein.
Oui, très sportive. Ouais. Et puis très bien soutenue par la mairie et le département.
Très bien. Bon, on aura l'occasion d'en parler puisque l'élu municipal, comme on l'a dit, interviendra. Alors, s'accorder des petites vacances au soleil de la Corse, mais on l'aura par téléphone tout à l'heure. Et puis vous êtes accompagné de Kevin Haro, l'entraîneur de l'équipe première. Bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Ouais, ça va, pleine forme ?
Toujours.
Ouais. Je veux saluer celle qui a fêté son anniversaire cette semaine, Vanessa. Bonsoir Vanessa, ça va ?
Très bien.
Ouais. T'as pas été au curling ?
J'ai pas encore été au curling.
Ah, parce qu'il était prévu qu'elle aille pour son mercredi d'anniversaire donc, sur le curling. On retrouvera tout à l'heure donc, Alexandre. Alors, première question, pourquoi le hockey sur Meudon ? Comment ça arrive ? C'est un sport quand même important. C'est rare quand même d'avoir comme ça une ville aussi concernée par le hockey sur glace en Île-de-France.
En fait, c'est un club qui existe depuis quand même de très très nombreuses années. 42 ans, ouais. Donc il y a eu une première patinoire construite à Meudon-la-Forêt. Mmh. Et puis on arrivait à la fin de vie de cette patinoire. Et là, il y a eu une décision importante de la part de la mairie d'investir dans une nouvelle patinoire, toujours à Meudon-la-Forêt. On est à 100 mètres de l'ancienne. Donc l'ancienne a été détruite.
Oui, bah, je m'en doute.
Et la nouvelle a été construite par... la mairie, et aujourd'hui, c'est l'UCPA Sport Station, en fait, qui est le complexe qui détient cette patinoire.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes des privilégiés ? Parce que des patinoires, ça disparaît un peu partout maintenant.
On a bien conscience d'être des privilégiés, absolument.
Ah, ouais, c'est vrai que je crois que c'est Boulogne hein, qui n'a plus de patinoire.
Oui, Boulogne qui a fermé dernièrement. Oui, c'est Boulogne la dernière fermeture en date. Il y en a d'autres, mais il y a aussi d'autres qui ouvrent. Mmh. Mais c'est vrai que la situation des patinoires, elle est assez... on va dire entre critique et puis en demi-teinte, quoi, on va dire.
Sachant que nous, notre nouvelle patinoire, d'un point de vue énergie, elle consomme très très peu.
Oui,
donc elle consomme moins qu'une piscine, par exemple. Donc c'est vrai que les nouvelles patinoires, on peut en construire parce que d'un point de vue éco-responsable, ça tient la route.
C'est ce qui était souligné dans un certain nombre de discussions ou d'articles, qu'en fait, une piscine consomme plus qu'une patinoire. Et puis après, il y a aussi un petit peu, parfois, une non-volonté politique ou une hypocrisie qui fait qu'on ferme des patinoires. Mais ça, c'est un autre débat, on n'en parlera pas aujourd'hui.
Oui, un autre débat. Alors, donc, il y a cette patinoire et il y a la création d'un club. Alors, c'est en 74 hein, que ce club crée.
Exactement.
C'est ça. Avec plusieurs petites disciplines quand même.
Alors à l'époque,
il n'y avait pas que le hockey sur glace.
Non, il n'y avait pas que le hockey sur glace. Hein. Il y avait la vitesse aussi, il y avait l'artistique, tout était confondu.
Et le curling même, on parlait de curling aussi. Oui.
Et le curling au départ, donc tout était confondu. Et en 1982, le Meudon Hockey Club a pris son indépendance pour créer le club. Ouais.
Donc c'est devenu un sport très important sur Meudon. Est-ce qu'on peut dire que c'est le sport numéro un ?
Alors aujourd'hui, en termes de performance de l'équipe première, oui. Les Comètes de Meudon évoluent, donc c'est une équipe professionnelle qui évolue en première division et c'est le seul club à ce niveau-là à Meudon. Et ensuite, en termes de nombre de licenciés, on doit être le deuxième plus gros club français Donc c'est vraiment extrêmement important. On a plus de 520 adhérents au sein du Meudon Hockey Club. Donc ça commence dès l'âge de 4 ans et puis ça va jusqu'à 66 ans avec nos vétérans. Donc on est un club, je dirais, très riche en termes de nombre d'adhérents, de nombre de bénévoles. Voilà, on est très chanceux. Le hockey sur glace, c'est une passion à Meudon, ça fonctionne, ça fait partie de la ville de Meudon, ça fait partie de l'ADN de la ville de Meudon aujourd'hui.
Ça veut dire que dans les grands matchs, toute la ville ne parle que de ça, les jours des grands matchs.
Alors aujourd'hui, on remplit très très bien la patinoire. Les Comets de Meudon sont connus, oui, maintenant à Meudon, en plus avec de plutôt très bons résultats sportifs. Mais là, je laisserai l'entraîneur
On va en parler.
En parler.
Ouais. Pourquoi les Comets? Alors, je le sais, j'ai préparé l'émission. Hein, c'est lié à l'observatoire, hein, c'est ça?
En fait, c'est lié à l'observatoire de Paris. Nous ne voulions pas d'un animal. Nous voulions voilà, quelque chose qui soit vraiment en lien avec la ville. Et puis, donc, on a la chance d'avoir l'observatoire de Paris à Meudon. Et on a cherché ben, voilà,
J'y ai vu
quelque chose
l'arrivée d'un
qui
Paris-Nice
brille.
il y a quelques années, d'une étape du Paris-Nice il y a quelques années, à l'observatoire. Non.
C'est magnifique.
Oui,
hein.
Ah oui,
non,
c'est très bien.
C'est absolument magnifique.
Donc, d'où le nom des comètes.
Donc, on a cherché, voilà, et donc les comètes, on a trouvé que la comète, c'était joli, c'était rapide, c'était brillant. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi la comète.
Alors, donc, il y a ce club, vous l'avez dit, club le sport le plus important. Donc, combien d'équipes maintenant, cette saison?
Alors, comment ça, combien
Bah, combien
d'équipes?
d'équipes qui jouent, des jeunes, des moins jeunes, et puis l'équipe Fagnon, on y viendra tout à
Bien
l'heure.
sûr. Donc, en fait, pour les moins de 7 ans, on a 3 équipes. Moins de
Oui,
9 ans, 3
oui,
équipes.
oui.
Les moins de 11 ans, on a 2 équipes. Moins de 13 ans, 2. Moins de
Ah
15
oui,
ans,
bien.
2. Les moins de 18 ans, une équipe. Et les moins de 20 ans, une équipe. Et puis ensuite, on a 2 équipes vétérans.
D'accord.
On a une équipe de jeunes prometteurs qui jouent en division 3, en fait, qui est un peu notre réserve de notre équipe première. Et on a bien évidemment notre équipe première qui évolue en division 1.
Et les jeunes qui viennent, ils restent dans ce sport?
Alors nous, notre politique, c'est extrêmement important. La politique du club, le premier axe, c'est vraiment de fidéliser les jeunes. Donc entre 4 ans et 12 ans, on souhaite fidéliser le plus d'enfants à notre sport. Et d'ailleurs, on a un taux de fidélisation extrêmement
C'est
élevé
bien, c'est bien.
dans ces catégories-là. Ça veut dire qu'on développe tous les enfants, même les enfants qui ont un petit peu moins de talent que les autres. On ne les laisse pas de côté, on les
Ouais.
accompagne. Ça, c'est
C'est
extrêmement
important,
important.
ouais.
Parce qu'on s'aperçoit que sur le plan national, je ne crois pas me tromper, mais les chiffres, tous sports confondus, c'est qu'un enfant qui a fait un sport entre 4 ans et 13 ans, 75% ont arrêté à 15 ans.
Ouais.
82% ont arrêté à 18 et 94% ont arrêté à 20 ans. Donc en fait, si on veut avoir beaucoup d'enfants en moins de 15 ans, moins de 18 ans, essayer de jouer les titres de champion de France comme on essaye
Ah
de le
oui.
faire avec nos équipes de jeunes, ben bien évidemment, on est obligé de fidéliser les
Oui, non, mais
enfants
c'est
tout
important,
petits.
hein, même pour la suite, même pour la culture d'un club. Donc c'est hyper
Voilà.
important. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas de profil type pour faire du hockey sur glace.
Ah non, tous les enfants
Oui.
peuvent en
Parce
faire.
qu'on a cette image quand même de, hein, de gros gabarits bien costauds, des fois un sport très physique, très engagé. Donc, faut rassurer les parents, c'est ouvert à tout le monde.
Alors, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. C'est le sport le moins dangereux. C'est-à-dire que l'assurance pour
Ça, c'est
jouer au
intéressant.
hockey sur glace est la plus basse de
Ouais.
tous les sports collectifs, hein. Il y a des enfants, donc ils sont très protégés. Donc, il y a absolument, il y a très, très, très peu d'accidents. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, quand on arrive à l'âge de 15, 16 ans, de toute façon, si on veut jouer à haut niveau, on est obligé de faire du renforcement musculaire.
Oui, bien
On est
sûr.
obligé de faire de la musculation. Donc, ça, c'est obligatoire. Donc, quelle que soit sa taille, ça passe par du renforcement musculaire, de la musculation, mais ça, c'est dans n'importe quel sport. Si on veut jouer à haut niveau, on est obligé de faire de la musculation.
Oui, et les parents, il n'y a pas de réticence quand leur jeune veut faire ce sport, il n'y a aucun problème. Non, au
Non,
contraire.
on est plutôt au
Oui.
contraire à dire aux
Oui.
parents, vous inquiétez pas, il a le temps de se
C'est bien,
développer,
c'est
qu'il se
bien.
fasse plaisir. Avant tout, il faut se faire plaisir sur la glace, il faut avoir envie de revenir. Et on s'aperçoit que les enfants qui arrêtent, ce sont souvent les enfants qui ont été poussés trop jeunes par leurs parents et qui un jour en ont un ras-le-bol et s'arrêtent de faire ce sport. Donc, vraiment, le taux de fidélisation, c'est un des indicateurs que l'on suit de façon très, très fine. qui est un des objectifs de nos entraîneurs du mineur, du hockey mineur. Et chaque année, on regarde le nombre d'enfants qui ont arrêté, pourquoi ils ont arrêté. C'est vraiment un indicateur vraiment très très important si on veut construire un club sur le long terme.
Oui, alors quand, avec toutes ces équipes, bah les créneaux, c'est 7 jours sur 7.
Alors, c'est
Vos
7 jours
créneaux de
sur
la
7.
patinoire, ils sont tous
Ah bah
pris 7 jours sur 7?
Ah oui, puis ça commence dès
Oui.
6 heures du
Ah oui,
matin
6 heures du matin.
avec l'artistique.
Ouf.
Nous, on termine les entraînements à 23h30. Ah non, c'est...
Et quand est-ce qu'ont lieu les matchs des jeunes, de ces équipes jeunes ou moins jeunes?
Alors, les matchs se déroulent le samedi soir,
Oui.
le dimanche midi et le dimanche soir.
D'accord.
En fait, ce sont les trois créneaux de glace que l'on a
Oui.
pour les
Avec
matchs.
des catégories quand même adaptées en fonction du déroulement des matchs.
Oui, absolument.
Oui.
Oui, dans les petites catégories, les enfants jouent moins longtemps, ils
Oui.
jouent sur des quarts de glace
Oui.
ou des tiers de glace. Donc, oui, c'est vraiment
Oui,
adapté aux enfants.
et puis il faut aussi une façon ludique quand même aussi pour leur inculquer l'amour de ce sport.
Alors, il y a une chose qui est
Ouais.
vraiment extrêmement intéressante dans notre sport, c'est qu'on a
Ouais.
essayé de s'inspirer des meilleurs, je dirais, des pays qui sont vraiment tout en haut dans le hockey sur glace. Et donc, la Fédération française de hockey sur glace a fait tout un travail. Elle est allée voir comment travaillaient les Finlandais, les Suédois. Et dans les petites catégories, c'est intéressant. Je pense qu'il y a d'autres fédérations qui pourraient prendre des leçons. C'est qu'il n'y a pas de score.
D'accord.
C'est-à-dire que vous n'avez
On jouait
personne
pour le
qui.
plaisir de jouer, quoi.
Voilà.
Voilà.
Donc, on marque des buts.
Ouais.
Je vous assurais qu'un enfant de 10 ans, il sait exactement combien de buts on a marqué, combien de buts il a encaissé. Mais ça n'empêche que sur le panneau d'affichage, il y a 0-0 pendant toute la partie et on n'affiche aucun but. Et en fait, l'objectif, c'est justement que les enfants jouent, les enfants s'amusent.
Ouais, c'est
Voilà, et
important, c'est
absolument
hyper
pas
important.
de regarder le score et de ne faire jouer que les meilleurs. Et donc c'est comme ça qu'on développe le plus d'enfants et c'est comme ça qu'on arrive à réussir à développer notre sport aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles?
Beaucoup.
Oui.
Donc ça, c'est le deuxième axe du Meudon Hockey
Ça, c'est
Club.
bien. Ça, c'est
Le
bien.
deuxième axe du Meudon Hockey Club, c'est de développer le hockey féminin. Kevin Haro, donc ici présent, a été l'entraîneur de l'équipe féminine pendant très
Ouais.
très longtemps. À Cergy-Pontoise, où, voilà, où
Ah
là,
oui. Premier club français, hein. Ouais, pour l'instant, hein. C'est vrai.
Exactement.
Voilà.
Et donc, du coup, il nous a vraiment accompagnés, il nous a aidés à développer la partie hockey féminin. Et aujourd'hui, on est très, très content parce qu'après 6 ans, on est arrivé à avoir notre première équipe féminine qui joue en
Bien,
élite.
c'est bien en plus.
Voilà, donc on est au plus haut niveau en hockey féminin et avec en plus de très, très bons résultats.
Pour une première année, ouais.
Une première année, c'était alors qu'on avait vraiment donné comme objectif de s'amuser, de se développer. Et cerise sur le gâteau, ces jeunes filles ont eu des résultats vraiment impressionnants, très très bons résultats.
Et parmi les entraîneurs, donc dans votre club, c'est des anciens pratiquants qui passent de l'autre côté de la barrière?
Oui,
Hein, comme
systématiquement.
vous gardez systématiquement donc vos licenciés, fatalement, bah, à un moment, on a envie de donner son savoir-faire, quoi.
Alors, on a quand même des entraîneurs qui sont
Oui,
diplômés, donc
oui.
qui viennent pas forcément de notre club. Et ensuite, on a beaucoup d'anciens joueurs de hockey qui viennent sur la glace, en fait, comme aides-entraîneurs. C'est-à-dire que pour utiliser au mieux l'heure de glace, on organise les entraînements par atelier. Donc,
D'accord.
en parallèle, vous pouvez avoir 4, 5, 6 ateliers et les
Ouais.
enfants passent d'un atelier à l'autre.
D'accord pour
Résultat, ils n'attendent pas. Et donc, sur une heure d'entraînement, ils ont environ 50 minutes d'entraînement effectif. Donc, ce qui est beaucoup, mais parce que c'est organisé par atelier. Et sur chaque atelier, on a une personne, soit l'entraîneur, soit l'aide-entraîneur, qui accompagne les enfants dans l'exercice.
Ces ateliers, c'est quoi? C'est enfin, c'est différent, j'imagine, par rapport à la technique et tout un tas de choses, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, nous en dire un peu plus, peut-être.
Bah en fait, la composition des entraînements, elles sont faites déjà par une planification annuelle
Oui.
sur certaines choses qui doivent être vues et puis acquises par les jeunes joueurs, les joueurs en formation, comme j'aime le dire. Et donc, du coup, il y a forcément, il y a des ateliers, il y a des ateliers de maniement, il y a des ateliers de technique de patinage, il y a des ateliers aussi d'opposition. Ce qu'on va appeler la tactique individuelle dans notre jargon, qui est en fait des oppositions en un contre un. Puis après, il y a ce qu'on appelle des jeux en espace réduit, qui sont donc là avec des oppositions 2 contre 2, 3 contre 3. Et on en fait beaucoup, nous, au Meudon Hockey Club, parce que jouer dans un espace réduit, en fait, pendant un certain temps, Ça permet à l'enfant d'utiliser toutes ces techniques de patinage qu'il a vues sur le premier atelier. On finit généralement avec ces jeux en espace réduit sur les derniers ateliers pour justement qu'il puisse, quand il a fait sa technique de patinage sur une certaine protection de palais, etc. Donc du coup, il peut mettre directement en phase de jeu avec une opposition toutes ces techniques. Mais il n'y a rien de mieux que de jouer dans des espaces réduits.
Oui, bien sûr.
Parce que les enfants, ils aiment l'opposition. On crée cette compétition saine, mais interne. Et puis, comme disait Dominique tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas de score. C'est juste que quand ils se revoient à l'autre entraînement, ils savent que quand ils retombent contre le copain, la fois dernière, ils ont perdu. Donc, en plus, ils ont envie de se dépasser pour justement s'améliorer. C'est comme ça c'est aussi en créant cette petite compétition, ces petits challenges. Et notamment, ça se fait dans les espaces réduits. Mais après, oui, il y a beaucoup d'ateliers qui sont liés à la planification annuelle à l'année.
Mais c'est bien qu'ils ne s'ennuient pas, parce que comme ça, ça ne crée pas un sentiment d'exclusion, ni même d'attente.
Il y a beaucoup de jeunes. Donc, dans ces ateliers, c'est fait en sorte aussi que le temps de passage, il doit être rapide. Mm. C'est-à-dire que c'est quasiment un temps d'action pour 2 à 3 temps de repos. Donc il faut que ça aille vite, parce qu'en fait, concrètement, on se rapproche aussi au plus d'un match. C'est-à-dire que quand on joue, je vais prendre le cas des seniors, mais les seniors, généralement, on a ce qu'on va appeler 4 blocs offensifs et 3 blocs défensifs. Donc on se retrouve avec ce qu'on appelle les fameuses 4 lignes. Donc en fait, quand le premier bloc est sur la glace, les 3 autres blocs sont sur le banc en train de récupérer, et ainsi de suite. Donc en fait, ça fait toujours un temps d'action pour 3 temps de repos. Donc on se rapproche au maximum en fait on essaie de se rapprocher au maximum aussi de ces intervalles de travail, pour que en fait ils soient aussi dans l'action du match, c'est-à-dire que le corps se soit préparé, parce que on fait un sport, on a beaucoup de changements au hockey sur glace, parce qu'en fait c'est pas un sport d'endurance, c'est un sport d'impact, d'explosivité.
Oui, parce qu'on va rappeler que c'est 3x20.
C'est 3x20 minutes.
3x20 avec quand même des bonnes coupures entre les deux, entre les tirs temps.
C'est pour refaire la glace, ça. C'est pour refaire la glace, parce que la glace ça s'abîme rapidement, et puis après le palais il peut plus avancer s'il y a trop de neige et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que arriver là, c'est qu'on se rapproche vraiment, vraiment, vraiment pour les jeunes aussi d'un système de jeu, parce que comme je le disais, on fait un sport avec beaucoup d'explosivité, et puis on s'arrête, on redémarre, on s'arrête, on redémarre. Faites ça pendant 30 secondes, vous allez voir que c'est pas comme au foot où ils vont avoir des longues séquences de sprint, puis d'un seul coup ils vont s'arrêter, puis ils vont marcher un peu pour récupérer, puis ils vont repartir. Nous, il se passe toujours quelque chose au hockey sur glace. Ouais. C'est-à-dire que toutes les 5 secondes, il y a une action.
Il a combien de cardio là, dans ces cas-là?
Ah, il est au maximum.
À combien?
180.
Ah oui.
Ouais. De toute façon, les joueurs changent entre toutes les 45 secondes et minutes.
Ah oui.
Tellement c'est physique.
Et ça, c'est vraiment le maximum.
Oui,
vraiment le maximum. Si on veut jouer en intensité, c'est 30-35 secondes maximum pour les joueurs, sous haute intensité.
Intensité. Bon, il y a quand même la notion de plaisir qu'il faut garder. Ça, c'est important.
Bien sûr.
Ça fait la différence souvent.
Vous savez, moi, ce que je dis même aux joueurs de l'équipe pro, le hockey sur glace est un jeu avant tout, et il faut s'amuser. Si on ne prend pas de plaisir, même si on fait de notre métier notre passion, il faut s'amuser. Il faut s'amuser. D'ailleurs, je finis toujours mes discours au début du match.
Faites-vous plaisir, c'est ça.
Amusez-vous. Et surtout, amusez-vous.
Lâchez-vous, amusez-vous.
Amusez-vous. Le hockey sur glace est un jeu, et on doit jouer avant tout. Même si effectivement il y a des enjeux, parce qu'on est une équipe professionnelle et tout ça, mais il faut pas oublier cette notion que c'est un jeu, que les joueurs sont pros, mais ils font de leur passion leur métier, ils sont entre guillemets privilégiés, puis que il faut quand même s'amuser. On vient on vient au travail, mais il faut on a la chance de faire de notre passion notre métier.
Oui. Alors vous, Kevin, comment vous êtes arrivé dans ce milieu? Comment vous êtes devenu entraîneur? Vous avez joué déjà au hockey.
Ouais, j'ai joué. Oui. J'étais à Cergy Pontoise.
Oui, donc vous êtes passé chez le concurrent. Il y a eu un mercato.
Exactement.
Oui. Pourquoi? Pourquoi ce choix?
Ce choix parce que j'avais besoin dans ma carrière d'entraîneur. Donc j'ai commencé le hockey à l'âge de 6 ans. Voilà, donc très jeune. C'est mon petit frère qui m'a amené au hockey sur glace, ouais, parce qu'il était parti avec l'école faire du patin. Il est rentré à la maison. Vous, oui, savez, à 4-5 ans, c'est là où les parents demandent quel sport tu veux faire. Mon frère, il a dit je veux faire du rugby sur glace. Il connaissait, ouais, pas le...
Donc, ah, il aimait bien.
Donc,
c'est pas mal.
Ouais, bah, pour l'image, c'était sympa. Et donc du coup, je suis arrivé au hockey sur glace grâce à mon petit frère, parce que moi, je faisais du foot, puis ça m'intéressait pas.
Ouais.
Et j'ai découvert ce sport. Et puis, depuis que j'ai mis mes premier coup de patin, je suis un grand passionné.
Et toujours Cergy-Pontoise.
Après, je suis parti un peu en Nouvelle-Zélande pour
coacher. On fait du hockey.
Et on fait du hockey en Nouvelle-Zélande, ouais.
Ah ouais, bien.
Alors ça, c'est vraiment du rugby sur glace, par contre.
C'est plus ce pays du ballon ovale là-bas.
En termes d'expérience, même dans les contacts et tout ça, c'est vraiment du rugby sur glace pour eux. C'est complètement différent. Mais oui, je suis parti un peu en Nouvelle-Zélande. Pour voir, pour visiter un peu le monde et puis aussi perfectionner mon anglais, parce que c'était important.
Ça, c'est le meilleur moyen.
Pour le reste de ma carrière d'entraîneur, j'avais besoin de perfectionner cet anglais. Donc, une immersion totale pendant 6 mois au pays du ballon ovale. Oui. Mais voilà, il faut savoir que
vous avez été voir des matchs en rugby quand même.
Oui,
en plus, c'était pendant, difficile.
En plus, c'était en 2011. Donc,
L'année où on perd la Coupe du Monde, un point.
Et la finale. C'était la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande.
Oui. Cette fameuse finale où qu'on doit gagner en principe, mais enfin bon,
c'est ça,
c'est notre histoire, oui.
C'est ça.
Donc après, vous revenez en France.
Après, je suis revenu en France, donc je suis retourné toujours à Cergy-Pontoise, et puis en fait, j'avais besoin enfin à Cergy-Pontoise, je travaillais sur le pôle espoir, donc le pôle espoir, c'était pour former les jeunes hockeyeurs, ceux qui sont déjà, on va dire, à 16-17 ans et qui avaient besoin de passer un palier et puis de les mettre dans le monde pro. C'est exactement comme un centre de formation au foot. Et donc j'ai travaillé là-bas, et puis est arrivé un changement, j'avais besoin de changement.
D'accord.
Et le Meudon Hockey Club cherchait un entraîneur pour ses U17-U20 à l'époque, donc c'est ce que je faisais. Et puis je me suis dit, allons-y. Donc j'ai eu un entretien avec Dominique Hervé et puis le président à l'époque, Mouloud Manseur de la CBB, parce qu'ils étaient sur les catégories du 7 U20, ils étaient en entente.
D'accord.
Donc du coup, j'ai passé l'entretien et puis on dit, il y a eu un bon feeling.
Voilà.
Et puis au fur et à mesure, on a travaillé ensemble et puis l'organisation du Meudon Hockey Club a décidé de me donner les rênes de l'équipe pro. Quand on était en D2, on a été jusqu'en finale. On a perdu en finale contre Vojani. Donc Vojani qui est composé essentiellement des jeunes espoirs de la Ligue Magnus, notamment de Grenoble, qui sortent beaucoup de joueurs. Là, actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui sont en Ligue Magnus quand nous, on avait joué contre eux l'année du titre, mais c'est du titre vice-champion de France. Et puis l'année d'après, l'organisation a apparemment été très contente de mon travail. Et l'année dernière, ils ont décidé de me donner les rênes de l'équipe D1 pour la première fois de leur histoire. Et puis voilà, l'aventure continue.
Oui.
L'année dernière, on fait 9e.
Oui.
Donc, on fait 9e. Donc, ça faisait très longtemps qu'un promu de D2 en D1 ne faisait pas la poule de relégation en fin de saison. Ça faisait 7 ans. Enfin, je m'étais arrêté à 7 ans parce que j'avais été chercher un peu ces informations. Donc, ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas fait de poule de relégation. Et on a un peu marqué un record dans la Ligue l'année dernière. C'est que sur 26 matchs, on fait 12 matchs qui finissent en prolongation.
Ah, d'accord. 12 matchs en prolongation.
12 matchs qui finissent en prolongation.
Presque la moitié, quoi.
Et en fait, ça je vais faire un rebond sur les valeurs que donnait tout à l'heure Dominique Hervé, sur les valeurs. Et en fait, l'équipe première, elle est là aussi pour, dans la France entière, parce que c'est un championnat national, on défend les valeurs du Meudon Hockey Club, mais qui sont aussi les valeurs de la ville. On parlait tout à l'heure de la comète qui va vite, qui est brillante. Ça fait partie un peu de notre identité dans l'équipe. C'est-à-dire que c'est plus technique, mais on a des jeux rapides en transition. On essaye d'aller vite. En plus, quand on est à domicile, on est tout en rouge, donc quand ça va vite.
C'est votre couleur de maillot.
C'est
ce que j'allais demander.
C'est
tout en rouge.
Dominant avec rouge. D'accord. Rouge, jaune, et puis avec un peu de blanc. Mais ce sont le rouge, la couleur dominante. Donc du coup, quand ça va vite, ça brille.
Oui. Alors parlez-moi un peu de votre effectif cette année. Vos joueurs, donc, ils ont été formés pratiquement pour beaucoup au club, ou il y a eu aussi des recrues extérieures?
Alors, on en a quelques-uns qui ont été formés au club. Parce qu'on
parlait de cette formation, justement. Exactement. Cette fidélité à ces valeurs du club de Meudon, quoi.
C'est ça. Bah, en fait, ça, c'est sur du long terme. C'est un travail qui se fait en long terme. Et donc, du coup, maintenant qu'on est en D1, nous, notre objectif, c'est de rester en D1. Oui. Et puis, de chaque année, de grandir dans cette ligue. Et puis aussi...
Et pourquoi pas un jour
d'être champion?
Oui.
Ah bah, quand vous voulez.
Ah, ouais, ouais.
Quand vous voulez. Ouais. Mais il faut y aller. Ce que j'aime bien dire à mes joueurs et puis à mon président, c'est comme les matchs, c'est étape par étape. Il faut passer des étapes, valider une étape pour passer à une autre. C'est important. Et là, en fait, là, on a 3 joueurs qui sont formés au club, qui sont dans l'effectif pro. Donc ça, c'est bien. Ça montre aux jeunes joueurs qui sont dans les petites catégories en disant
que c'est possible.
Je peux y arriver. Ouais. Je peux y arriver. En plus de ça, cette année, on a signé un partenariat avec Rouen. Avec Rouen, qui est en Ligue Magnus. C'est un peu comme si on parlait du PSG.
C'est ça qui est fou. On croit qu'il n'y a que des villes de montagne qui font votre sport. Mais ce n'est pas vrai. Rouen, Angers, ce n'est pas des villes de montagne. Hein.
Marseille,
oui.
Nice, qui vont avoir les Jeux Olympiques en plus.
Ils vont avoir la patinoire aux Jeux, oui. Ouais. Donc
on a signé un partenariat avec justement pour pouvoir donner encore plus de temps de jeu à nos jeunes recrues avec les licences bleues, donc ils peuvent donc ils s'entraînent avec la D1 toute la semaine et de temps en temps ils viennent jouer en D1 ou ils vont jouer avec à l'échelon inférieur par rapport à la D1, mais donc du coup ils ont d'autres responsabilités en D1, ils ont certaines responsabilités et quand ils descendent dans l'échelon inférieur avec l'équipe de Rouen qui est en division 2. Donc c'est l'équipe réserve de Rouen, et ben ils ont d'autres responsabilités. Donc du coup, en fait, on continue, on les fait jouer, on leur fait gagner en confiance, et en plus de ça, ils ont un autre rôle, donc du coup, on complète ce qu'on ne peut pas forcément compléter quand ils sont avec l'effectif D1. Et là, on voit très bien l'évolution. Moi, cette année, je vois c'est un très beau partenariat. Je remercie encore Harry Salo et puis le club de Rouen pour ça, parce que c'est vraiment un très bon partenariat qu'on a fait avec eux et pour seul objectif de se maintenir en D2 à Rouen et ils donnent du temps de jeu à nos joueurs et moi je le vois quand ils reviennent sur la D1 et pareil, eux ils ont des jeunes joueurs qui s'entraînent avec la Ligue Magnus, qui jouent avec la D2, qui jouent avec les U20 Elite, certains sont en équipe de France U20 et donc du coup qui viennent aussi compléter notre effectif parce que donc du coup c'est un échange, c'est-à-dire que vous nous prenez des joueurs, vous nous donnez des joueurs. Du coup, on leur donne aussi du temps de glace.
Ouais. Ils sont prêtés, hein. C'est bien ça, je crois, le terme.
Oui, je dis donner, mais pardon. C'est même pas un prêt, c'est un système de licence bleue. C'est-à-dire qu'ils sont affiliés à Rouen, ils peuvent venir jouer chez nous.
D'accord.
Et nos joueurs qui sont... Donc ça s'arrête à J23, on appelle ça les joueurs de moins de 23 ans, pas au-delà. D'accord, donc ça va du U18 aux joueurs de 23 ans. Et donc, du coup, eux, ils peuvent faire ces allers-retours sur la Ligue Magnus.
Je vais vous donner un exemple. On a un jeune de Rouen, Johannes. Donc, il s'entraîne avec la Magnus. Il joue de temps en temps avec la Magnus de Rouen. Et quand il ne joue pas avec la Magnus de Rouen, et bien à ce moment-là, il vient jouer avec nous à Meudon en Division 1.
C'est bien, c'est partout.
On a Owen Fossé, donc un joueur de Meudon, qui joue avec la D1 comme défenseur. Et là, ce week-end, le dernier week-end, il est allé jouer avec Rouen en D2. D'ailleurs, on peut le féliciter, il a marqué un magnifique but avec les Dragons de Rouen. Donc voilà, c'est le principe, en fait, pour permettre de donner un maximum de temps de jeu et de développement à nos jeunes.
Oui. Alors moi, je serais curieux de savoir comment se passe le quotidien d'un sportif hockeyeur de haut niveau. Sa journée type, c'est quoi? C'est combien? 2 entraînements par jour?
Donc il y a un entraînement sur la glace, donc et il y a ce qu'on appelle l'entraînement hors glace, donc qui est la préparation physique dans
le footing,
on a notre préparateur physique avec exactement la fonte. Enfin, il y a des ateliers qui sont mis en place, mais spécifiques aussi, on va dire à notre sport, mais c'est pas forcément du gain de masse dans la saison. C'est juste du maintien musculaire parce que pour éviter toutes les blessures. Donc une journée type, le joueur arrive à la patinoire. Par exemple, on s'entraîne à 9h30 le mardi matin, jeudi matin et vendredi matin.
Il y a quand même 2 jours libres.
Non, parce que parce qu'on s'entraîne on s'entraîne le lundi après-midi.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est, okay. Ça, c'est fait exprès. Ah, ouais. On donne non, un plus bien. Grand temps de récupération
oui,
entre
c'est
le match.
C'est important aussi. C'est important
bah,
aussi.
Vous savez, quand on revient, par exemple, d'un voyage à Méribel,
ouais.
Et qu'on rentre, en fait, le dimanche matin, il est 8h.
Et vous partez en car à Méribel, non?
On part en car.
Ah ouais, ouais. Donc,
c'est des cars couchettes.
Ouais,
donc,
ouais, ouais, enfin,
donc,
même quand même.
Donc voilà,
ouais.
Mais après, enfin ouais. Voilà, même si on n'est on pas dans une récupération, on n'est pas dans une. Une bonne forcément une bonne récupération.
Non,
donc du coup, on donne le lundi, on donne un peu plus de temps le lundi dans la récupération, donc on s'entraîne le lundi après-midi. Donc on a 4 entraînements semaine.
Un petit décrassage quoi. Comme
exactement,
on dit au fond,
c'est une réathlétisation, c'est un décrassage, et on reprend les habitudes, les kinés, les ostéos sont là, ils font leur travail pour remettre les joueurs d'aplomb, et puis voilà. Donc par exemple, un mardi matin, parce que c'est on va dire c'est une des journées les plus chargées, le joueur il arrive à 8h30, À 8h40, il y a une séance vidéo. À 9h30, après la séance vidéo, ils montent sur la glace. Donc, il y a un entraînement d'une heure et quart. Généralement, comme c'est des entraînements qu'on travaille sous haute intensité quand même pour être au plus proche du match, ça dure une heure. Il reste un petit quart d'heure où ils font généralement des petits jeux entre eux, du travail. On appelle ça de l'extra, du plus, quoi, de l'extra. Et après ça, ils ont la séance de musculation, la séance dite hors glace avec le préparateur physique. Et après la séance de prépa physique, il y a les kinés et ostéos qui viennent pour continuer le suivi des soins. Et quand un joueur est blessé, et ben, il se présente aussi à la patinoire en même temps que ses copains, parce que c'est important de garder le lien.
La cohésion.
Le lien. Parce que déjà, une blessure, c'est difficile à vivre pour un joueur, parce que quand on fait de son métier sa passion et qu'on est blessé, on est arrêté brusquement,
ouais.
C'est important pour eux, ils se sentent déjà
un petit peu, retrait,
un peu
ouais,
à l'écart.
Ouais. Bah, ouais.
Et nous, on les fait venir. Je les oblige à venir, à suivre
les
séances, à suivre les séances vidéo et à participer aussi avec le groupe. C'est-à-dire que quand le groupe est sur la glace, lui, il est en séance dans la salle de sport. Quand ils ont fini la glace, lui, du coup, il vit les moments de vestiaire. C'est hyper bien un moment de vestiaire. Vous savez, je discutais avec
c'est là que les matchs se gagnent souvent.
Oui.
C'est vrai, hein, parfois.
Oui, mais oui. Et j'ai discuté plusieurs fois avec d'anciens joueurs. Et puis, ce qui leur manque, c'est ces moments de vestiaire. Quand on discute avec d'anciens joueurs, ce qu'ils disent, c'est tout ce qu'il y a dans le vestiaire. C'est tout. Et puis après ça, on va dire à 13h, à midi et demi, 13h, ils ont terminé. Donc on a des étudiants, donc eux, ils ont des horaires aménagés, donc ils partent.
Ah, il y en a quand même qui...
Ouais,
ils gagnent une certaine somme quand même, ils sont payés quand même.
Bien sûr.
Mais il y en a qui arrivent quand même en plus à faire des études.
C'est ça, c'est ça. Alors il y en a qui sont
Ils arrivent à tout faire ?
Écoutez, on a des joueurs qui passent des masters et tout ça, donc ils ont plutôt des bonnes notes, donc quand j'ai tendance à parler avec eux sur leurs examens, parce que des fois ils me disent écoute, il se peut que là je loupe l'entraînement ce matin parce que j'ai un partiel. Je vais pas lui dire je m'en fiche de ton partiel.
Ouais.
Vous savez, il y a le hockey, puis après il y a l'après hockey.
Oui.
Et c'est important d'avoir une grande reconversion.
Ouais.
C'est ce que Et ça, je l'ai appris quand j'ai travaillé au Pôle Espoir à Cergy, c'est d'avoir un double projet.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas freiner, un jeune joueur qui est étudiant, qui vient, qui fait tous les efforts pour être là tous les matins à l'entraînement, mais qui fait encore plus d'efforts pour pouvoir continuer son cursus scolaire et passer ses diplômes. Et franchement, c'est une sacrée organisation. C'est parce que vu le rythme d'une saison de hockey, et puis les voyages en bus, moi j'ai des garçons qui étudient dans le bus et tout ça, pas forcément dans les meilleures conditions, et j'en profite pour saluer parce que...
Oui, faut le faire.
Parce que c'est pas facile, facile. Je pense que beaucoup pourraient lâcher.
Alors on a une particularité quand même en plus, c'est que nos joueurs professionnels ont dans leur contrat l'obligation d'entraîner les petits.
Ah, ça c'est bien.
Donc en fait, on ne prend pas de joueurs d'ailleurs.
Et puis, c'est des idoles pour les
petits. Absolument.
C'est des dieux aussi. Hein.
Donc ils ont une obligation dans leur contrat de passer un certain temps sur la glace avec les petits. Donc le soir, en fait, ils reviennent très souvent pour entraîner des jeunes catégories comme aide-entraîneur. Et donc là, cette année, il y a un joueur que l'on n'a pas pris parce qu'il voulait enlever cette clause dans le contrat. Et nous, ça ne nous intéresse pas. On veut des joueurs qui ont envie de s'intégrer avec les mineurs.
Qui rentre dans le projet du club et surtout d'avoir ce lien, parce que nous on s'entraîne les matins, donc en fait les enfants ne croisent pas forcément les joueurs quand on s'entraîne le matin, quand on est quand on est en déplacement sur la route la semaine. Enfin, il y a très peu, mis à part qu'il les voit au match. Donc c'est important donc de garder ce lien là. Et puis effectivement, bah l'enfant quand il se fait entraîner par les joueurs suédois, les joueurs tchèques, un joueur russe, il est content.
Bah oui.
Et puis les joueurs quand eux ils viennent au match et que les enfants tendent le bras, ils savent à qui ils donnent la main, à qui ils frappent dans la main, et puis ils sont contents. Et puis des fois, même s'ils ne comprennent pas tout le français, pourtant, on a des joueurs cette année qui s'intègrent très, très bien. Et on a des joueurs qui apprennent le français. Là,
en plus, en
6 mois, il y a des gros progrès chez nos joueurs dits étrangers. Notamment, on a un Suédois qui fait que ça et qui vient demander plein de conseils pour bien apprendre le français. Et voilà.
Très bien, Kevin. On va marquer une petite pause musicale parce qu'on a Madame Lucchini qui nous attend après au téléphone. Donc, la petite pause musicale. On aura donc l'élu maire adjointe chargée des sports et de la ville associative. Et puis ensuite, on poursuivra donc cette intéressante conversation sur le hockey sur glace. La musique avant.
Quelques lueurs d'aéroport, d'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie. De Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. S'en souvient ici, c'est l'hiver à San Francisco, je ne trouve
mon Paris est fait.
Voilà, donc comme promis, eh bien, on a Madame Francine Lucchini, maire adjointe chargée des sports et de la vie associative sur Meudon. Madame Lucchini, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bah ça va. Et vous, ça va bien encore? Ça va, il fait beau?
Eh bien, écoutez, oui, sur mon île, je suis. Voilà, je prends quelques jours de repos.
Ouais, quelle chance. Alors, on est en train de parler donc du club le plus important pratiquement sur Meudon, le club de hockey sur glace. C'est un club phare quand même, hein, dans votre ville.
Tout à fait, c'est un club phare et puis qui est monté en D1, donc on en est ravis. Ce club-là donc, est vraiment aidé par la ville et la. Oui. Et le conseil territorial, où on est vraiment pour le sport féminin. Et depuis que je suis maire adjointe au sport, depuis 2017, entre autres choses, dans ma politique sportive, il y a le sport féminin. Et donc, son président, Dominique Hervé, donc, m'a suivi avec, en créant justement une équipe féminine qui est très, très bien. J'ai vu le dernier match jeudi soir contre Saint-Pierre-et-Miquelon. Et elles ont gagné. Elles ont très, très bien joué.
Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah ouais,
ouais. Chapeau. Et elles n'étaient pas ridicules du tout, et vraiment, et très bonne ambiance, et comme quoi les féminines, les femmes peuvent faire du sport, même qu'il y a quelques années qui était réservé aux hommes, on ne voyait pas tellement de femmes dans certains sports, dont le hockey, et donc là, ça se démocratise complètement, et je suis très contente, et en plus, ils adhèrent aussi à ma politique concernant le sport santé, où ils accueillent effectivement aussi des personnes en situation de handicap, ouais, donc... Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais.
Alors, ça représente combien d'associations sportives au total sur Meudon et combien de sportives et sportives recensées?
Alors, on a 83 associations sur Meudon. Sur Meudon. Oui. Et on en est donc à peu près à 12 000 licenciés.
12 000 licenciés, oui. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des demandes pour certains sports qui n'existent pas encore?
Pour l'instant, non, c'est des sports qui existent, mais que nous n'avons pas d'association inscrite sur notre territoire, ou parce qu'on n'a pas forcément les infrastructures répondant à leurs demandes. Mais j'arrive à toujours à botter en touche parce que donc.
Oui.
On a un skatepark, mais un petit skatepark, ouais. Mais il est quand même pas mal. Mais on en a un très très grand sur le territoire de GPSO et donc sur le territoire de Meudon. Oui. Mais ce grand skatepark où on peut faire aussi du vélo, du pas mal de choses, et sur notre territoire, donc à Marcelbeck en l'occurrence. Et donc, je fais la promotion en général. Oui. Voilà.
Et puis Meudon, c'est bien connu, hein, c'est le passage du Paris-Versailles, cette fameuse côte du pavé des gardes que tout le monde connaît.
Je l'ai fait une fois, je voulais voir. Je n'étais pas maire adjointe à l'époque, mais je confirme. Hein. Donc il y a ça, on a le Tour de France.
Oui, bien sûr, le Tour de France. Également. Et le Paris-Nice une année.
On a eu le Paris-Nice.
Oui, j'étais, moi.
Ah oui, moi aussi j'y étais, c'était magnifique. Ouais. Et puis là, c'est vrai qu'avec 2024, le sport était à l'honneur, donc j'étais ravie. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu le marathon, on a eu homme-femme, que j'ai fait aussi, il y a eu 10
km. Ah bien.
On a eu le vélo, quoi. Donc on a accueilli nous aussi, on a accueilli des équipes étrangères pour s'entraîner. On a eu. Le Canada avec le goalball. Donc, effectivement, maintenant, nous sommes, à la suite de ça, Meudon a été choisi comme ville hôte par rapport aux Paralympiques. Donc, belle chose. Et puis, on a nos monuments. Hein, donc, c'est vrai que ça fait.
Et puis, vous avez quand même quelques sportifs élèves qui habitent, je crois savoir, qu'il y a un certain Jérôme Roten.
Jérôme Roten, qui habite sur Meudon. Voilà. On a aussi un présentateur télé qui court souvent, Monsieur Gilles Boulot, qui habite à Meudon.
D'accord. Grand sportif devant l'éternel.
Exactement. Voilà.
Quelles sont les manifestations les plus importantes à l'année sur Meudon? Vous avez des rendez-vous phares typiques?
Oui, tout à fait. Depuis peu, donc on a la Run Rose, donc par rapport au cancer du sein, et on est arrivé à mobiliser facilement entre 1000 et 1500 personnes. Donc c'est familial, il y a des femmes, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes, parce que malheureusement, le cancer, ça touche aussi des hommes. On a la foulée meudonnaise, donc là qui est la course phare de Meudon. La run and bike, donc avec un sport donc vélo mais familial, la journée des arts martiaux, et donc depuis la troisième année maintenant, on a le tournoi des quatre nations de handball féminin.
D'accord, quatre nations handball féminin, Donc, ouais, effectivement, ville très, très sportive. Vous avez quelque chose à dire au président du hockey?
Bonjour, Francine.
Oui. Ah monsieur Dominique Hervé.
Voilà, c'est ça, monsieur Hervé. Mais... Ouais.
Qui ne connaît pas monsieur Dominique Hervé? Ah. Bon, je suis ravie. Je ne pouvais pas être là parce que, évidemment, j'étais en Corse, là. Oui. Mais je suis très, très contente, quoi, depuis 2017, où donc, j'ai fait sa connaissance. C'est vrai qu'on fait une très bonne collaboration au niveau entre les hockeyeurs masculins et féminins et la ville. Mmh. C'est un sport qui fédère. Ouais. Il a répondu vraiment à chaque fois à mes attentes, quoi, comme je disais tout à l'heure, par rapport au sport féminin et au handisport, mais pas que, parce qu'à côté de l'UCPA Sport Station, on a la Villa Beau Soleil, qui est une résidence pour seniors. Et la problématique aussi pour les sports de haut niveau, comme le hockey, c'est au niveau des joueurs ou les logés. Et j'avais pris contact avec la directrice de cette résidence pour seniors, qui était d'accord pour accueillir des hockeyeurs. Donc, je les ai mis en relation avec Dominique Hervé. Et maintenant, il y a des hockeyeurs qui résident dans cette résidence. Et en contrepartie, ils offrent des heures pour faire des activités manuelles, sportives avec les seniors. Et ces seniors viennent voir le hockey. Mm-hmm. Donc, c'est magique.
Voilà. Oui, donc on a une très, très bonne collaboration avec cette maison de retraite. Les joueurs jouent vraiment le jeu. Donc, ils organisent énormément d'activités. Ils parlent comme des amis avec les personnes de cette maison. Mm-hmm. C'est incroyable la relation qui a pu se créer entre l'équipe et la résidence Beau Soleil et les personnes qui y vivent. Donc, un très, très grand succès.
Et ils viennent avec joie à certains matchs de hockey. Donc, c'est vrai qu'avec Monsieur le maire, avec Denis Larguero, maire de Meudon, on voulait vraiment, quand je lui ai parlé de ma politique sportive, il m'a donné carte blanche. Et on travaille vraiment en collaboration. C'est vraiment collégial au niveau de tous les projets pour les Meudonnais. Mmh. Que ce soit donc. Alors, nous, effectivement, au niveau de la politique sportive de Meudon, on ne prône pas forcément à chaque fois le haut niveau parce qu'il faut des moyens derrière. Mais par contre, en revanche, on pousse un maximum tous les sportifs de tout niveau, parce qu'on peut arriver à un certain niveau, qu'on soit homme, femme, même troisième âge, on voit des choses, on est stupéfait. Et on est suivi par les clubs et je suis très contente, très contente. Et puis dans les membres du bureau du hockey, il y a aussi des femmes. Donc non, c'est parfait, c'est parfait. Mmh.
Bon, c'est très bien. Ça sera le mot de la fin. On va vous laisser encore profiter du beau soleil corse. Hein. Voilà.
J'étais ravie.
C'était un plaisir. Et puis à très bientôt.
Sur les ondes. À très bientôt. Peut-être au prochain tournoi des Quatre Nations qui va se passer à Meudon. Oui.
Pourquoi pas.
En avril. Hein.
Effectivement. D'accord. On note. Merci beaucoup en tout cas. Merci madame.
Je m'en prie. Merci.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Voilà donc pour Madame Lucchini. Je voudrais simplement vous demander quel type d'entraîneur vous êtes. Quelqu'un de très exigeant?
Je suis très exigeant envers moi-même. Donc du coup, je demande beaucoup d'exigences aussi aux joueurs en contrepartie.
Oui. Ouais.
Après, j'ai un management plutôt participatif.
Oui.
Voilà, j'aime bien avoir tous les avis des joueurs. Mm-hmm. Et puis... chaque joueur a le droit de donner son avis, c'est important. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est le groupe. C'est le groupe avant tout. Ouais, oui. Il faut que le groupe vive bien.
Le collectif, c'est ça.
Exactement, ouais. Parce qu'on est... une saison de hockey, c'est un marathon. Mm-hmm. C'est un marathon et il y a des hauts, il y a des bas. Et si le groupe vit bien, dans les moments difficiles d'une saison, rien ne se passe. C'est-à-dire que j'ai toujours... cette image de bateau sur une mer calme, et à un moment donné on est dans la tempête et il faut que dans une tempête on se serre les coudes et que le groupe c'est important que le groupe vive bien dans ces moments-là.
Il y a un petit coup de gueule des fois, ça arrive.
Ça arrive.
Ouais,
comme
tout entraîneur. Hein.
Comme tout entraîneur, et puis forcément il y a des moments où... bah, les joueurs sont un peu moins concentrés et compagnie. Ouais, ouais. Et puis c'est le rôle, j'ai comme un rôle de papa.
Ouais, ouais, c'est
comme un rôle de papa en vrai. Donc c'est à un moment donné, bah, quand ça manque de concentration et que ça travaille pas bien, et ben faut taper un peu du poing sur la table, remettre cette bonne vieille expression qui est remettre l'église au milieu du village.
Ah, c'est ça.
Et puis et puis remettre tout le monde sur le droit chemin, ne laisser personne sur le côté.
Ouais.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les joueurs blessés.
Après ça fait des amis dans un groupe et c'est foutu, hein.
C'est ça, c'est ça. Après dans un groupe, on peut pas tous s'aimer, ça existe pas.
Non.
Ça n'existe pas, mais on peut cohabiter. Mmh. On peut cohabiter et puis se dépasser ensemble pour un objectif.
Mmh.
Et ouais. notre objectif cette année, l'année dernière, on a fini 9e, donc à la porte des playoffs pour notre première saison, comme je le disais tout à l'heure, une belle saison pour un promu. Là, c'est notre deuxième année en D1 et actuellement, on est 5e du championnat sur 16 équipes.
Donc, vous allez jouer les playoffs là pour l'instant. Là.
On est qualifié pour être dans les playoffs. Maintenant, on peut aussi encore, il nous reste 3 matchs, ça va être trois matchs très difficiles parce qu'on joue, on rencontre Épinal demain qui est le leader. Samedi on se déplace à Dunkerque. En plus c'est le carnaval à Dunkerque, donc c'est une vraie fête.
C'est le carnaval là.
Ouais, c'est ça.
Dans le Nord, il paraît que c'est quelque chose.
C'est ça, ça va être une vraie fête. Et puis nous on va faire le match d'ouverture du carnaval. Ouais. Donc forcément il y a des attentes. Et puis il y a Dunkerque qui est deuxième actuellement du championnat. Mmh. Donc là sur les deux prochaines journées, on rencontre le leader du championnat et on rencontre son dauphin. Mmh. Mais ça nous fait pas peur parce qu'en fait on est ambitieux. Ce que je disais à Dominique quand il a voulu me donner les rênes, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est ambitieux ou on se dit on est en D1, on joue le maintien ? Moi, je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis quelqu'un d'exigeant et je suis un compétiteur avant tout. Et je pense que si celui qui est à la tête de l'équipe en tant qu'entraîneur, il a cette vision, ça se ressent sur les joueurs. Et l'année dernière, si on fait 12 prolongations, c'est parce qu'on est une équipe, ce que j'appelle être une équipe de caractère, c'est-à-dire qu'on ne lâche rien du début jusqu'à la fin. Oui. Et on travaille. Et si on perd, c'est parce que l'équipe en face, elle a été meilleure. C'est ça. Mais on ne lâche pas. On continue à travailler parce qu'à un moment donné, le travail paye quelque part. S'il n'a pas payé le soir du match quand on a perdu, quelque part, on va récolter ces fruits-là. Et c'est ce qui se passe cette année sur la deuxième saison du Meudon Hockey Club en D1, on est cinquième. On m'a posé la fois dernière, est-ce qu'on est la surprise ? Je ne sais pas si on est la surprise. Mais en tout cas, on travaille fort parce qu'on a des ambitions. L'année dernière, on a fini 9e. On s'est dit, cette année, l'ambition, c'est de finir dans le top 8. C'est-à-dire, c'est de faire une place de mieux. On est cinquième actuellement. On va pas dire, on arrête de travailler pour dire, il faut qu'on soit huitième. Non. Mmh. Si, à la fin de la saison régulière, on finit cinquième, l'année prochaine, on verra encore plus grand. On ira chercher encore des ambitions et on ira chercher un top 4. Mmh. Et on avance. Je vous parlais tout à l'heure d'étapes. Ça fait partie des étapes. C'est comme ça, et puis on structure. Cette année, j'ai un staff extraordinaire, un staff médical extraordinaire qui fait un grand travail. Cette année, on a 4 matchs supplémentaires par rapport à la saison dernière parce qu'il y a eu une réforme des championnats, et donc du coup, on a 30 matchs dans la saison régulière. Sauf que ces 30 matchs qui sont condensés aussi avec la semaine, c'est-à-dire qu'on joue. On a joué samedi dernier à Neuilly, on joue demain soir. On joue demain soir à Meudon et on se déplace samedi. Donc en une semaine, on va enchaîner 3 matchs. Et là, j'ai besoin d'avoir un staff médical. Et mon staff médical fait un travail extraordinaire. J'ai des gens qui sont aussi à la charge de faire les déplacements, de manager les déplacements. Ça m'enlève du travail. Et je peux me concentrer sur ce qui est le plus important, le groupe.
Oui. Et le public, il est comment sur Meudon, les matchs?
Alors en fait, le public,
combien de moyenne de spectateurs ?
En gros, on tourne autour de 600-700 personnes à chaque match.
Donc très, très, très passionné. Il y a un club de supporters.
Alors en fait, on a un public qui se rapproche pas mal du rugby. C'est-à-dire qu'on a un public de connaisseurs, mais on a surtout des familles qui viennent.
Mm-hmm.
Donc, c'est-à-dire que vous avez des enfants, des mamans, des papas. On est sur un public très agréable.
Mm-hmm.
Voilà,
mm-hmm.
Donc des gens qui connaissent, qui supportent leur équipe. mais une population qui est là. Par exemple, à Meudon, vous avez les spectateurs de l'équipe adverse et les spectateurs de Meudon qui sont ensemble, chantent ensemble, qui vont applaudir le but de l'équipe. Quoi, on est vraiment sur un sport avec un public agréable.
Oui.
Très, très agréable.
Qu'est-ce que mange un sportif de haut niveau dans le hockey? Parce qu'ils sont obligés de faire attention, les hockeyeurs, non?
Oui, c'est sûr qu'il y a une alimentation. Ouais. Enfin, comme je dis, c'est leur outil.
Bon, il peut y avoir des troisième mi-temps, c'est important quand même.
Ça fait partie de la cohésion d'équipe.
Oui,
ça fait partie de la cohésion d'équipe.
Psychologiquement, c'est important, oui.
Ça fait partie de la cohésion.
De lâcher de temps à autre comme ça. Ouais,
c'est ça. Ah ouais. Et puis, ça fait du bien des fois aussi. Ça fait du bien. Il y a quelques semaines, ils ont fait une soirée d'équipe parce qu'ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin. Et puis voilà, ça se passe très bien. Ils reviennent avec des sourires et puis des anecdotes à droite à gauche. Et puis ça donne des sujets.
Beaucoup de protéines.
Oui, beaucoup de protéines.
Qu'est-ce que...
Enfin, ils font comme les autres sports, quoi. Ils font attention à ce qu'ils mangent, à leur quotidien, à leur discipline de
bien
vie.
Sûr.
Quoi.
Bien sûr.
Et le poids est important.
Comment ?
Le poids est important.
Oui.
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 Oui. Oui, 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 faut faire attention parce que faut faire attention à son poids, comme tout sportif. C'est sûr que l'été ils prennent un peu plus, mais ils se remettent rapidement. Il y a des programmes qui sont envoyés à l'équipe. Mais ce que je dis souvent, leur corps est leur outil de travail principal. Donc c'est-à-dire que si tu donnes des mauvaises choses à ton corps, forcément tu peux te rapprocher plus de la blessure et comme je le disais tout à l'heure, ils ont peur de la blessure. Vous savez, des fois quand il y a des joueurs qui cachent des petits bobos parce qu'il veut jouer, et puis en fait il dit là je peux plus, mais c'est parce qu'il a été trop loin. Donc c'est pareil, il y a une éducation aussi pour certains, notamment chez les jeunes joueurs, sur ça, parce qu'ils sont dans le groupe, ils ont peur de sortir du groupe, ils ont peur de casser ce lien, ils ont peur de, c'est-à-dire que quand il y a un jeune qui performe et qui malheureusement se blesse à ce moment-là, ça va marquer un temps d'arrêt, le temps qui se réadapte et compagnie, et donc du coup ils ont tendance plus ou moins un peu à cacher ça et on les éduque de ce côté-là. C'est mon rôle, j'ai aussi un rôle d'éducateur pour ces jeunes joueurs, de leur expliquer qu'en fait ton corps est ton outil de travail. À partir du moment où tu ressens une gêne, vaut mieux la traiter maintenant que la cacher, que ça empire et qu'en fait on ait un temps d'arrêt beaucoup plus grand. Ça fait partie de l'éducation du jeune joueur pro comme je disais. On a Owen Fossey, on a Jean Hervé, on a Baptiste Boraz, on a Nicolas Ferreira, qui sont des jeunes joueurs en devenir, mais tout ça en fait ils apprennent aussi avec les joueurs d'expérience dans le groupe. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, c'est un rôle aussi de papa, où je dois leur expliquer les choses pour que justement ils deviennent plus performants et qu'ils apprennent à écouter leur corps.
Mais un joueur de hockey, c'est 85 kilos, et ça court le 100 mètres en moins de 11 secondes.
C'est ça.
C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont extrêmement rapides. Donc c'est des joueurs assez lourds quand même, 85, ça peut aller jusqu'à 90 kilos, mais extrêmement rapides. Ouais. Donc voilà, on ne peut pas jouer au hockey sans être rapide.
On n'a pas dit le prix de la licence et de la cotisation. S'il y a des jeunes intéressés là après cette émission à venir vous rejoindre, vous prenez déjà ? C'est encore possible ?
Alors on prend les jeunes avant 10 ans.
Oui. Oui.
Après 10 ans, c'est trop tard. C'est difficile de commencer le hockey, donc ça commence dès l'âge de 4 ans. Une licence pour un enfant de entre 4 et 7 ans, vous avez 40 euros de licence de la fédération et puis 300 euros pour la licence du Meudon Hockey Club. Ensuite, quand on va monter dans les catégories, par exemple des U15, des U18, là, ils ont énormément de déplacements partout en France. Donc, il faut l'intégrer dans le coût de la licence. On est plutôt, donc la fédération, elle, prend 100 euros. Et nous on demande 400 euros, 420 euros de licence qui inclut tous les déplacements.
Oui. Et l'équipement à la charge du pratiquant, il y a sa paire de patins.
À la charge du pratiquant.
C'est obligé.
C'est entièrement à la charge du pratiquant, l'équipement.
C'est obligé. Bon, on en trouve partout, hein.
On en trouve partout, dans les petits, les petits. En fait, l'équipement ne coûte pas cher, c'est-à-dire qu'il peut l'acheter d'occasion. Donc là, pour les petits, c'est pas très très cher. Après, quand on monte en catégorie, une bonne paire de patins, quand on veut jouer professionnel, ça commence à devenir un certain investissement.
Ouais, là, c'est plus les magasins spécialisés pour le coup.
il n'y a que des magasins spécialisés, ça, voilà. Même pour les petits. Hein.
Je sais. Ouais. Voilà.
Très bien. Allez, la deuxième pause musicale, et puis ensuite, on va faire un petit passage par le foot, par l'actualité foot. On y va. Alors cette émission, bah, naturellement, elle vous sera possible d'être écoutée en podcast, et ce, très rapidement. On va donc, comme chaque semaine, donc accueillir notre ami Stéphane Dezenclos du quotidien du sport. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, quelle sacrée semaine hein, au niveau du ballon rond. Hein.
Ça en est passé des choses. Hein.
Voilà, on va naturellement revenir sur d'abord l'épisode des Coupes d'Europe, avec donc deux clubs français qui poursuivront l'aventure en huitième. Bon, bah, c'est pas une surprise, hein. Ce sont donc le Paris Saint-Germain.
Malheureusement. Ouais.
Oui, Paris Saint-Germain, donc, qui, après sa victoire donc 3-0, donc, s'est imposé très largement 7-0 au Parc des Princes face à Brest. Et puis, donc, l'équipe de Lille qui était déjà qualifiée, alors que Monaco peut avoir des regrets. Les Monégasques, donc, battus au match aller 1-0, ont tiré le match nul à Benfica 3-3. Mais que de regrets. J'allais dire deux équipes, c'est pas une surprise, parce que c'est à peu près la moyenne des équipes qu'on qualifie chaque fois en huitième.
Ouais, voilà, tout à fait. Bah, la grosse, ce qui est dommage, c'est Monaco quand même, hein, parce que Monaco était malheureusement, c'est fou, c'est une équipe folle, quoi, ils sont plus forts, on a vraiment toujours l'impression qu'ils sont plus forts et ils gagnent pas, c'est un peu pareil en championnat quand vous regardez Lille-Monaco par exemple.
Oui, très inconstante comme équipe cette Finlande.
Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est même pas. C'est plus, pour moi, c'est plus qu'inconstant, parce que inconstant, ça voudrait dire bon, un jour vous êtes bon, le match d'après vous êtes mauvais, tout. Alors que là, c'est, ils sont bons à oui, ouais, on peut dire inconstant.
Oui.
À Lisbonne, ils sont bons tout le match, sauf trois fois ou sur les trois buts qu'ils encaissent, quoi. Donc ils sont des, ouais, peut-être inconstants, c'est des moments, des trous d'air qu'ils ont dans un match qui malheureusement leur fait perdre le match, quoi.
Oui, alors le grand perdant de cette soirée européenne, c'est le football italien qui a vu trois clubs donc être éliminés. La Juventus de Turin, battue donc par Eindhoven, 3-1 après prolongation. On va rappeler que la Juventus a gagné le match aller 2-1. L'équipe de Bergame, ça c'est un peu plus surprenant, l'Atalanta Bergame qui avait été battue 2-1 à Bruges et qui a été battue 3-1 par cette même équipe belge. Et puis c'est le Milan AC aussi qui s'arrête, battu par Feyenoord, 1-0 pour Feyenoord au match aller et 1-1 donc au match retour.
Ouais, voilà. Ce qui est fou quand même, quand vous voyez que Feyenoord a pris 7, je crois, c'est 7 hein, par Lille, là, le dernier match. Non, c'était 7-1, je crois. Ouais, 7-1, je crois. Lille gagne 7-1 en dernier match. Mm-hmm. Donc c'est quand même fou. Je pense que Milan a. Voilà, le scénario du match est aussi assez incroyable, quoi. Mais c'est vrai que l'Italie, alors, c'est. Bon, ils ont encore des clubs en.
Il reste que l'Inter, qui l'Inter, s'est qualifié dans les 8 premiers.
La S-Rome en Ligue Europa.
Ouais, c'est tout.
Je crois qu'ils ont encore un autre club dans Ligue Europa. Mmh. Donc, ils peuvent espérer se rattraper avec cette compétition.
Et puis, battu aussi par Bruges, qui a quand même terminé 24e de la phase de poule, hein, qui s'est qualifié ric-rac et qui fera les 8e de finale.
Ouais, tout à fait, qui s'est qualifié vraiment ric-rac, hein, d'ailleurs. On se rappelle de cette image là, des Belges qui avaient perdu à City et qui regardaient sur les écrans des portables du staff où on était le match. Je crois qu'il y a, je sais plus de quel match ça a dépendu, mais ils sont vraiment qualifiés, ils sont passés par la toute petite porte. Quoi. Et puis finalement, ils sont en 8e.
Alors, les autres équipes qualifiées, c'est deux autres équipes allemandes, Dortmund, hein, qui, après avoir battu le Sporting du Portugal 3-0, a assuré donc, l'essentiel en faisant 0-0 à domicile. Et le Bayern de Munich a quand même souffert au match retour. Hein, le Bayern qui avait gagné 2-1 à Glasgow et qui a partagé le nul 1-1, mais in extremis. Hein, ils ont évité la prolongation de peu. Hein.
Ouais, ils ont marqué. Ils ont longtemps été menés 1-0 et puis après ils ont marqué. Bon, ça arrive. Hein, de toute façon, le foot c'est ça. Hein, c'est comme pour d'ailleurs beaucoup de matchs. Hein, c'est quand même ça. Là, on rentre dans les moments où c'est un petit peu chaud, quoi. Donc tout peut arriver, donc effectivement, quoi.
Et puis le Real qui naturellement donc a conforté son succès du match aller, vainqueur 3-2 donc à Manchester, et match retour avec les trois buts d'Mbappé, le hat-trick d'Mbappé, donc vainqueur 3-1 au match retour. Donc on aura des huitièmes alléchantes, on a déjà hâte d'y être, hein, Stéphane. Paris Saint-Germain, Liverpool, Dortmund, Lille, Real Madrid, Atlético de Madrid, donc Griezmann contre Mbappé, Bayern de Munich, Bayer Leverkusen, Bruges, Aston Villa, PSV Eindhoven, Arsenal, Feyenoord, Rotterdam, Inter de Milan et Benfica, Barcelone.
Ouais, ça va, il va y avoir il y a 2-3 belges. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait tant de. Ça va être des beaux matchs, mais.
En PSG, Liverpool, on ne peut pas faire mieux. Hein.
Comment ?
PSG, Liverpool, on ne peut pas faire mieux.
Ah, voilà, mais en fait, moi, je trouve qu'il y a surtout une énorme affiche, quoi. Et peut-être, effectivement, une autre, peut-être. Les
deux Madrid aussi. Les deux Madrid.
Voilà, le derby de Madrid, quand on sait que les deux équipes sont en tête de la Liga, donc effectivement, quoi. Mais sinon, après, surtout à ce stade de la compétition, tout est possible. Oui. Mais je trouve qu'il n'y a vraiment qu'une, on va dire, une et demie, un choc et demi, un gros choc et demi, quoi. C'est-à-dire le Liverpool-PSG, et puis PSG-Liverpool plutôt, et puis. Et puis Lille-Dortmund.
Real Madrid-Atlético.
Real Madrid-Atlético. Ah,
Dortmund-Lille, c'est du 50-50. Hein.
Lille-Dortmund, ouais. 50-50.
Oui.
J'aurais tendance à dire peut-être un
55-45.
Un chouïa après pour peut-être 51 pour Lille et 49 parce qu'ils reçoivent, parce qu'ils ont. Genesio a montré sa grande capacité à tactique, très forte tactique. Et puis, bon, Dortmund, ils sont quand même 10e en Bundesliga. Ils ont déjà changé d'entraîneur. C'est pas non plus. top top quoi. Donc ça, je pense qu'il y a un très 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 léger avantage pour Lille. Pour
voilà. Et puis on va rappeler que Lyon, donc qualifié directement en huitième de finale de la Ligue Europa, affrontera donc le Steaua de Bucarest, donc c'est tout à fait abordable pour les Lyonnais. Allez, on en revient à la 23e journée du championnat. Le Paris Saint-Germain bat toujours invaincu, après ces 23 journées, 17 victoires et 6 nuls. Le PSG qui est allé gagner à Lyon, donc 3-2. La première journée avait commencé par la victoire de Rennes devant Reims 1-0. Ça devient très très problématique pour les Rémois. Victoire de Lille devant Monaco 2-1. On parlait justement de cette fameuse inconstance des Monégasques. Match spectaculaire entre Saint-Etienne et Angers 3-3. Victoire, nette victoire d'Auxerre devant Marseille 3-0. Nantes qui a battu Lens 3-1. A noter aussi Nice qui, du coup, décroche sa troisième place en battant Montpellier 2-0. Nul entre Strasbourg et Brest 0-0. Et puis donc Toulouse qui a enfoncé encore un peu plus le Havre en s'imposant au Havre 4-1. Donc Paris a maintenant 13 points d'avance. 59 devant Marseille, deuxième 46, troisième Nice 43, quatrième Lille 41 et cinquième Monaco 40. Et en bas de classement, donc 14e Nantes 24 points, 15e Reims 22 points, 16e Saint-Etienne 19 points, 17e Le Havre 17 points et 18e donc Montpellier 15 points.
Ouais, c'est ça devient surtout, on a eu aussi très compliqué pour eux. Quoi, non, même pas en fait. Je pense que le défi des derniers, ça m'étonnerait beaucoup que quoi, ça sera trop compliqué pour que l'un des trois derniers arrive à s'extirper de ses trois dernières places.
Oui.
Je dirais que
attention Reims quand même, hein. Reims peut faire les barrages. Hein.
Y a Reims,
attention,
Reims,
hein.
Il y a Reims qui dégringole dangereusement, mais vous savez, on en avait parlé déjà la dernière fois. Comme je vous disais, moi, ce qui est incroyable, ce qui est d'après moi, la grande chose à souligner sur cette saison, c'est que tous ces clubs-là, pratiquement, ils se sont mis en difficulté beaucoup aussi lors du mercato. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'abord l'argent et l'équilibre financier au résultat sportif, parce que Reims, c'est pareil. Hein, Reims, je crois que c'est leurs deux meilleurs joueurs qui sont partis, Agbanou, le défenseur, et c'est Mounesti, je crois, le milieu de terrain qui est parti, qui étaient les deux meilleurs joueurs de Reims, qui sont partis, qui ont été vendus, bien vendus, hein, parce qu'ils ont au total des deux, je crois que ça fait à peu près 30 millions. Et en d'autre côté, ils ont pris, je crois qu'ils ont acheté deux joueurs, ça fait 8 millions quoi, aux deux. Et donc, du coup, ils ont d'abord misé là-dessus. Montpellier, c'est encore pire. Quoi. Ils ont vendu tous leurs attaquants pour d'abord leur équilibre financier avant le résultat sportif quoi. Et donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Bon, Saint-Etienne, eux, c'est qu'ils n'ont pas dépensé d'argent du tout, donc c'est chaud. Moi, chez Saint-Etienne, je les sens très très mal.
24e journée de Ligue 2, alors là il y a eu quand même un petit peu de changement. Hein. Lorient a été battu à domicile par Laval 1-0, Metz a perdu un match très important dans les dernières minutes contre la Ajaccio 1-0, et c'est finalement le Paris FC qui fait la bonne opération en battant 3-1-0, nette victoire de Dunkerque devant Clermont 3-0, et Bastia qui nouvelle fois donc bat le Resta 1-0. Donc Lorient en tête avec 49 points, ça se resserre devant deuxième le Paris FC 46, troisième Dunkerque 45 et quatrième Metz 44. À noter que donc Guingamp et Annecy sont en embuscade, 5e avec 39 points. Et en bas de tableau, c'est aussi très serré, 13e Rodez et 3, 27 points. 15e Le Red Star, 26 points. 16e Clermont, 25 points. 17e Martigues, 21 points. Et 18e Caen, 16 points. Bon, pour Martigues et Caen, c'est pratiquement cuit. Mais ça s'est resserré en haut du classement.
Moi, je ne condamnerais pas Martigues. À Martigues, il faut...
Ouais. Ouais, 4 points.
Pas, ils ont gagné, je crois, ce vendredi, là, Martigues. Là. Non,
ils ont gagné.
Ouais, ils ont gagné. Et ils font si tu regardes sur leurs 6-7 derniers matchs, c'est un peu moins mauvais, quoi. Ils en ont gagné peut-être 2. C'est surtout Caen qui a toute l'équipe qui était là pour jouer la montée, et puis qui finalement se retrouve très mal embarqué, et puis n'arrive pas à gérer la situation. Hein, on l'a vu, on en est déjà à 3 entraîneurs et on voit vraiment le club qui n'arrive pas à gérer sur le papier, qui n'arrive pas du tout à... C'est pas des joueurs faits pour... Même s'il est âgé maintenant et que c'est loin d'être le plus mauvais, Yann Mvila, par exemple, c'est pas un joueur qui fait, qui a l'ADN de jouer le maintien en Ligue 2, quoi. Donc, et il y en a beaucoup, c'est comme ça. Donc, c'est un peu, ça me semble très compliqué. En plus, ils sont quand même un peu largués en points. Alors que Martigues, ils ont 21 points, c'est ça?
Ils sont, oui, ils sont qu'à 4 points de Clermont, le barragiste.
Voilà, voilà. Et puis, ils sont à 5 points du Red Star, à 6 points de Rodez. Ça va super vite, hein. Ça va super vite, hein. Maintenant, c'est vrai que ça va être dur. Ça va être très dur pour eux. Ils ont fait une grosse erreur, je pense, en allant jouer le début de saison au Vélodrome. Et ils continuent d'en payer les frais aujourd'hui, quoi.
Alors, en national, 22e journée, défaite du Paris 13 Atlético à Boulogne-sur-Mer 3-1. Par contre, victoire de Versailles devant Nîmes, hein, pas très bien placé, donc 2-1. À noter aussi que Orléans a été battu par Villefranche-en-Beaujolais 2-0, que Le Mans est allé gagner donc à Bourg-en-Bresse 1-0 et que Nancy, leader, s'est imposé à Dijon 1-0. Donc, Nancy qui est assez largement en tête à 42 points, devant Boulogne 2e 36 et 3e Le Mans 35. Effectivement, c'est l'équipe qui a le vent en poupe actuellement. Et en bas tableau, donc Bourg-en-Brest et Versailles sont 12e avec 25 points, juste devant le Paris Atlético 14e avec 24 points, 15e Quevilly-Rouen 23 points et 16e donc Châteauroux 20 points et Nîmes 17e 19 points. Donc ça reste encore serré quand même pour le maintien pour les clubs franciliens.
Ouais, mais il y a quand même une belle réaction de Versailles quand même. Hein.
Versailles, il était temps. Hein.
Trois victoires de suite, Versailles. Hein.
Ouais, donc, il était temps que ça régisse. Hein.
Ouais, donc il remonte super bien, quoi. Donc après, voilà, maintenant ça passe un peu inaperçu. On a un club comme Nîmes qui est en train de sombrer, quoi. Ouais. Donc c'est assez terrible ce qui arrive à Nîmes depuis maintenant. Depuis qu'ils ont quitté la Ligue 1, je pense qu'ils ont quitté la Ligue 1, ils ont dû redescendre très vite après. Ils sont restés un ou deux ans, peut-être en Ligue 2, je ne sais plus exactement. C'est chaud, quoi.
Allez, un petit mot sur le foot féminin. L'équipe de France qui s'est imposée face à la Norvège 1-0, c'était à Toulouse. Match demain contre l'Islande, donc au Mans, à 21h10, dans le cadre de la Ligue des Nations. Bon, voilà, match préparatoire. Enfin, Ligue des Nations.
Voilà, bon, je crois qu'il y a surtout l'Euro qui va
arriver. Oui, match préparatoire surtout pour l'Euro, c'est ça. Ouais.
Ouais, voilà. Donc après, bon, ils ont fait une victoire un peu à l'arraché contre la Norvège avec beaucoup de turnover ou de joueurs laissés sur le côté pour différentes raisons. Hein, Wendy Renard, Katoto, d'ailleurs qui est rentré, qui a marqué.
Ouais, qui a marqué, oui.
Quand elle est rentrée, il y en avait encore d'autres. Je n'ai pas là le nom de toutes, mais il y a beaucoup de Matteo qui était, elle était même pas sélectionnée parce qu'elle était qui est quand même la meilleure buteuse, je crois, de D1, quoi, et qui restait sur très bonne performance avec l'équipe de France, qui a pas été retenue. Donc il y avait pas mal de je pense de genre de filles ou sur le côté ou dans les tribunes ou chez elles ou sur le banc, donc voilà. Bon, la Norvège est une très bonne équipe, donc c'est ça travaille, quoi.
Très bien, Stéphane, merci pour ce point hebdo foot comme chaque semaine, et puis rendez-vous donc la semaine prochaine. Ça va être un petit peu plus calme cette semaine, c'est la Coupe de France.
Ouais, ça va être la Coupe de France. Bah, plus, oui, il y a peut-être moins de matchs, mais bon, ouais. La semaine, mais après, il y a le championnat juste derrière.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, donc.
Il y aura matière quand même.
Absolument. Très bien. Merci, Stéphane. Allez. Merci.
Bonne soirée à vous.
Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci en tout cas. Voilà, pour notre ami donc Stéphane Desenclos. Est-ce que l'entraîneur du hockey s'inspire aussi des fois du foot? Est-ce que ça vous intéresse? Pas trop?
Si, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain. Donc,
D'accord. C'est donc, pas loin, mon nom. Hein. C'est pas loin, justement. Vous avez Rotten.
c'est pas très loin. Ouais. Mais après, ils ont été durs avec le Breton, parce que je suis Breton aussi. Donc, voilà.
Il y a Saint-Brieuc PSG hein, en Coupe de France.
Ouais, semaine, c'est ça. Ouais, donc, mon cœur balance. Mais voilà, en Ligue des Champions, Brest a pas fait un pli. Mais oui. J'aime beaucoup le sport, je m'intéresse. Les Jeux Olympiques, c'était extraordinaire.
Ah bah oui, on va en parler un peu.
C'était extraordinaire de pouvoir vivre ça dans son pays, pas loin de chez soi. Et puis voilà, c'était un moment
un moment magique.
Alors justement, comme vous aimez le sport, on aime tous les sports, et on va donner maintenant les autres faits de l'actualité sportive. On va naturellement commencer, on va se rassurer, il y avait le zéro du ski français, vos zéro pointés la semaine dernière. Là, c'est le biathlon qui termine comme première nation donc au championnat du monde. C'est ça, Alexandre Constalut, qu'on n'avait pas entendu encore.
Mais je suis bien là, ouais, je suis voilà. Bien là. Et donc on commence le journal des sports justement, comme tu l'as dit, avec les championnats du monde de biathlon. Et l'équipe de France est sur un nuage actuellement, puisque c'est la première nation au classement avec 13 médailles, 6 en or, 2 en argent, 5 en bronze. Derrière nos bleus se trouve la Norvège avec 9 médailles et la Suède avec 4 médailles. Il y avait également la Coupe du Monde de ski alpin.
Oui, ça a repris.
Et chez les hommes à Crans, Montana, et ce sont les Suisses Odermatt et Monet qui terminent leader à domicile. L'Italien Paris termine troisième. Et chez les femmes, c'est l'Américaine Michaela Schifrin qui remporte l'épreuve à Sestriere devant Jutic et Molson.
Victoire.
Centième victoire, absolument.
Ah ouais. Centième victoire, bon, chapeau. Hein.
Ouais. En rugby, résultat de la troisième journée du tournoi des Six Nations.
Ouais, une formalité pour nous dire.
Formalité, là, c'était une humiliation pour l'Italie. Ouais. 73-24, une déculottée vraiment.
11 essais.
11 essais, c'était vraiment magistral ce qui s'est passé hier. Dans les autres résultats, l'Angleterre bat l'Écosse 16-15 et l'Irlande bat le Pays de Galles 27-18. Au classement, l'Irlande est leader avec 13 points, la France et l'Angleterre 2e avec 10 points, l'Écosse 4e avec 6 points, l'Italie 5e 4 points et le Pays de Galles 6e avec un petit point.
En attendant l'Irlande-France dans 15 jours.
Absolument.
Ah, ça va être, là,
ça va être un très décisif.
Ah ouais.
Résultat également de la 17e journée de Top 14 et encore un mauvais résultat pour le Stade français qui perd à Toulon 24-6. Ça va pas du tout bien pour le Stade français. Le Racing 92 gagne 26-21 contre le Stade Rochelet. Victoire importante pour le Racing qui remonte à la 11e place. Donc le Stade français, malheureusement, est toujours dernier du classement. En basket, l'équipe de France jouait contre la Croatie en match de qualification pour l'Euro. Et les Bleus l'ont remporté 83-80. Ils pointent à la première place du classement du groupe E avec 10 points. Et ils jouent tout à l'heure, là, à 21h10, contre la Bosnie-Herzégovine, deuxième du groupe. Donc ça va être aussi un match important. Chez les femmes, on jouait quand même la 17e journée de championnat. Et pour les principaux résultats, Bourges, leader, a gagné un match important contre son dauphin Latte Montpellier 66-64, permettant donc de prendre 4 points à Bourges. Et résultat important aussi à l'Asvel de Lyon, qui a gagné un match contre Tarbes 72-56. Handball, 17e journée de championnat aussi. Et le PSG a gagné 37-34 contre le Pays d'Aix. Nantes bat Créteil 25-23. Et Ivry perd une fois
de plus.
Ouais, c'est compliqué pour Ivry, franchement, là, qui perd à Montpellier 33-26. Au classement, le PSG est deuxième avec 31 points, 1 point de Nantes leader. Créteil est 12e avec 12 points. Et Ivry est toujours dernier avec seulement 3 points pris sur toute la saison. C'est une catastrophe pour Ivry. Ça sent la relégation à plein nez. C'était également une semaine de Ligue des Champions et le PSG a assuré l'essentiel contre Federicia 38-32, tout comme les Nantais qui ont gagné contre Szeged 32-29. Au classement, le PSG est deuxième du groupe A derrière Vesprem et Nantes est deuxième du groupe B derrière Barcelone. Chez les femmes, c'était la 14e journée de championnat. Le Paris 92 a perdu contre Hockenheim Trusterheim 21-20. Au classement, les Parisiennes sont 9e. En Ligue des Champions aussi, chez les femmes, Brest-Bretagne a gagné par forfait 10-0 et Metz a gagné 24-20 contre Storhamar. Les Messines sont premières du groupe A et les Bretonnes quatrièmes du groupe B. En volleyball, Philippe, Paris perd son match du week-end contre Cannes 3-1 en Marmara Spike League. Pareil pour le Plessis-Robinson qui perd 3-1 contre Toulouse. Au classement, le Plessis est dernier et Paris descend à la 9e place. Chez les femmes, Levallois-Paris a joué contre Marc-en-Barœul et a gagné 3-1. Au classement, le club des Hauts-de-Seine est troisième et à un point du leader, le Pays d'Aix-Venel. On passe en athlétisme.
Oui, championnat de France en salle.
Un bon week-end en athlétisme dans la salle Miramas avec un record de France en marathon féminin réalisé par Manon Trapp en 2 heures.
Ça, c'était en dehors des championnats de France.
En dehors des championnats de France, mais c'est un bon résultat et un record de France. Donc 2h23min38s.
Marathon de Séville, oui.
Oui.
C'était ça,
oui, c'est Marathon de Séville, c'est en dehors des championnats de France en salle. Hein.
On peut également souligner la victoire des trois Bretonnes, Solène Jiquel sur le concours de 100 hauteurs samedi, Agathe Guillaumeau aux 1500 mètres et Clara Lieberman sur 800 mètres dimanche. Donc ça, c'était pour les championnats de France. Et on termine ce journal des sports avec le tennis de table et la victoire d'Alexis Lebrun dans le top 16 européen. Le Français s'est imposé 3-1 en finale contre le Slovène Darko Jurgic.
Voilà pour ce journal des sports, comme chaque semaine, encore très copieux comme le point foot. On parlait des jeux.
Alors, il manque juste le hockey sur glace.
Ah, allez-y, donnez-nous le résultat. Oui, c'est bien, oui. Ouais, ouais. Donc, juste un petit mot sur les jeux, justement. Il manque peut-être une équipe de France compétitive.
pour les Jeux, pour
oui,
les Jeux Olympiques.
Pour drainer un petit peu l'enthousiasme pour ce sport. Alors, c'est un des rares sports qui n'est pas présent aux Jeux pratiquement.
Alors l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine ont encore une chance d'être qualifiées pour les prochains Jeux Olympiques.
Oui.
Donc ils sont en fait l'équipe qui est la dernière non qualifiée pour les Jeux Olympiques. Et avec les événements que l'on connaît entre la Russie et l'Ukraine, l'équipe de Russie pourrait ne pas être qualifiée. Et dans ces cas-là, ce sont les équipes de France masculine et féminine qui iraient aux Jeux Olympiques. Non, mais quand on regarde le nombre de licenciés que nous avons en France, je crois qu'on est, on est autour de 25 000 licenciés, donc 25 000 hockeyeurs versus les autres pays. D'arriver à qualifier l'équipe de France aux Jeux Olympiques où il y a vraiment très très peu d'équipes, c'est un exploit. C'est un exploit d'avoir nos deux équipes de France aux portes des Jeux Olympiques. Donc c'est une très très belle performance. Hein.
Alors justement, on parlait des Jeux là, olympiques qui ont été un énorme succès. 2030, naturellement.
Les Jeux Olympiques. Hein,
on les attend énormément du côté de Meudon pour le hockey sur glace.
Exactement, avec les Jeux Olympiques qui vont se passer à Nice.
Oui.
Donc une nouvelle patinoire qui va être construite. Nous, il faut savoir que notre sport est capable de se développer si jamais on a la bonne infrastructure, les patinoires avec un grand nombre de spectateurs. Nous sommes le deuxième sport en salle en termes d'entrée de spectateurs. Donc c'est je dirais le hockey sur glace, le week-end, remplit ces patinoires. Et en fait, on est très souvent limité par nos capacités de patinoire. Donc, il faut continuer à construire des patinoires, des grandes patinoires, voilà, parce que
et
c'est un spectacle
promets,
qui
plaît. On donnera les résultats maintenant du championnat d'Alimanus au niveau sur le hockey sur glace. Hein. Alexandre s'en occupera.
C'est un oubli.
Vous voulez rajouter un petit quelque chose? Il nous reste 2-3 minutes.
Un petit truc sur les Jeux Olympiques, puis surtout sur notre équipe aussi avec Meudon. Nous, on a la chance d'avoir Margot Mamry, qui est avec qui on a monté cette équipe féminine à Meudon et qui est la gardienne de l'équipe de France.
Il faut le dire alors.
Voilà,
qui, national.
Qui est la gardienne de l'équipe U20, qui est la gardienne aussi sur l'équipe réserve et qui fait aussi quelques montées sur l'équipe féminine, pour aider. Et on est très 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 attentif aussi au sujet de savoir si Margot et son équipe iront aux Jeux Olympiques, parce que ça restera aussi un événement pour le Meudon Hockey Club à travers Margot. Margot qui a été formée aussi et qui a été formée au Meudon Hockey Club. Donc,
quelle satisfaction pour est dirigeant comme ça.
Ouais. Et surtout que Margot donc, a joué deux matchs lors du tournoi de qualification des Jeux Olympiques, là, le TQO féminin, et a gagné ces deux matchs.
Ah oui.
Donc vraiment, elle a été extrêmement performante lors de ces TQO.
Et elle a participé à un match de pré-saison masculin avec la D1. Donc cette année, elle a contre-tour. On donne aussi à nos sportifs de haut niveau du temps de glace et une visibilité pour qu'elles puissent performer avec l'équipe de France.
Très bien, écoutez, merci. Merci de nous avoir parlé hockey sur glace. C'était votre premier radio, vous voyez, tout s'est bien passé.
Ouais. Et on vous attend tous demain la patinoire de Meudon.
Absolument.
Pour vraiment ce match extraordinaire entre Meudon et Épinal, le premier du classement, qui est vraiment une équipe absolument incroyable.
Très bien, merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et puis, merci à Jason pour la mise en route technique de cette émission.
Merci
on vous laisse en musique, comme chaque fin d'émission. Et rendez-vous la semaine prochaine au bout du foot avec LHJ et toute son équipe dans quelques secondes.
Merci encore.
Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher.
Quand il vient me chercher,
il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Je crois pourtant qu'il est seul et qu'il voit.
fait.